Quand on s'en de passer les femmes, va-t-on passer de quelques 33 minutes, voilà. Quelques versets de Coran, après cette pause courte. Tu viens de... Alors, très proche de ton micro pour qu'on t'entende bien. Pardon, excuse-moi. Donc, salam alaikum. Bienvenue à toi. Bonne fête de l'Aïd avec un petit peu de retard. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ça s'est bien passé?
Oui, c'était très bien.
Oui. Alors, je sais pas, je vais faire un signe technique parce que j'ai pas l'impression qu'on entende bien le quatrième micro, Atman. Donc, il faudra, je sais pas, éventuellement changer le... Pourtant, on entend bien, mais il faut... Bon, c'est le direct, un petit souci de micro.
C'est bon comme ça?
Ah, là, on t'entend largement mieux, voilà.
D'accord.
Peut-être présenter Atman dans un premier temps?
Bien entendu.
S'il le souhaite, d'ailleurs. Hotman.
Je me présente.
Si ça ne te dérange pas.
Bah écoutez, je suis étudiant. Je suis étudiant en Égypte pour l'instant. Ça fait maintenant 2 ans. Je suis étudiant à l'université de l'Azhar, dans le droit islamique. Et c'est des études qui demandent beaucoup d'attention et de maîtrise de la langue arabe, parce que tous les cours sont en arabe. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que on découvre notre islam et notre civilisation, cette belle civilisation qui mérite qu'on la redécouvre de nos jours. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de parler d'un sujet qui est important.
Ouais, justement, je vais lancer le sujet. Tu voulais aborder la thématique sur la notion de projet que des personnes pourraient mettre en œuvre, et donc il y a forcément derrière une certaine ambition. On veut toujours voir son projet arriver à ses termes. Donc on va aborder donc cette thématique d'une manière générale sur la mise en œuvre de d'un projet. Quelle ambition il faut établir au préalable, quelle méthode, enfin, dans son ensemble. On parle de ce projet, c'est bien cette thématique que tu voulais aborder aujourd'hui.
Exactement. Je partirai d'un constat d'abord, et c'est ce qui va mettre en exergue l'importance de ce projet. Bon, je pense que c'est un constat qu'on a pu faire et qu'on fera, parce que c'est l'état de la société. C'est que, en tout cas durant mes études, j'ai vu peu de personnes qui étaient ambitieux. C'est un constat accablant, voire même révoltant. Les étudiants aujourd'hui, que ce soit à partir de la maternelle, on peut parler déjà de la maternelle, voire les enfants, on voit les signes précurseurs de l'ambition déjà dès le jeune âge. Et voilà, donc depuis la maternelle vient ensuite le primaire et le collège et le lycée, et voire même après, les étudiants manquent d'ambition. Les profs se plaignent, mais disons que c'est un peu même, on peut y mettre une critique et dire que c'est la faute de la société. C'est la société qui cultive cette consommation, cette non-production, qui éteint la volonté, qui met en feu les passions, et tout ça, ça fait que, comme je l'ai constaté durant mes études, c'est que on voyait peu d'élèves qui avaient un projet ambitieux. Alors, normalement, on devrait régler ce problème à travers les séances d'orientation qu'on a. Mais c'est pas assez. C'est pas assez, voire même. Alors, on peut se moquer en disant, comme on l'a entendu plusieurs fois, dire que les conseils d'orientation sont bien souvent des conseils de désorientation. Parce que c'est... Et les professeurs doivent jouer un rôle. Les professeurs doivent être des modèles. Car c'est l'ambition, la volonté, l'amour du projet, avoir un projet plus tard, ça passe d'abord par le professeur. Mais malheureusement, on voit beaucoup de professeurs, surtout les nouveaux professeurs de maintenant, qui sont le produit de la génération, de ces générations dernières, qui sont sans ambition eux-mêmes. Ils font leur boulot pour avoir leur paye, et ils ne font pas passer un message aux élèves.
Du moins, pas toujours.
Bien sûr.
Quand même une petite
Un petit bémol,
oui. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile le métier d'enseignant, j'en parle parce que je suis un petit peu dans le milieu, mais t'as raison hein, sur le fait que à un moment il y a un certain nombre de contraintes qui fait qu'on perd peut-être l'objectif qui était au départ d'instruire et de transmettre un savoir et de susciter un petit peu des vocations chez les élèves.
Bien sûr.
Maintenant la question c'est bon, qu'est-ce qu'on peut proposer effectivement donc comme remède à ce manquement, à ce constat que tu viens de décrire.
Alors c'est le but de cette intervention justement. On va étudier qu'est-ce que le projet, ses enjeux, les critères pour évaluer si un projet est ambitieux ou pas, et puis les difficultés qu'on peut rencontrer, les solutions qu'on peut apporter. Alors premièrement, l'idée d'ambition, l'idée de projet, c'est le thermostat d'une civilisation, c'est-à-dire qu'une civilisation atteint son apogée lorsque ces individus cultivent en eux cette volonté de faire. Et à l'inverse, lorsque meurt en ces individus l'ambition, lorsqu'ils n'ont pas d'ambition grande, alors là la civilisation commence à s'éteindre, c'est la décadence. Mmh. Et ça on l'a constaté durant l'histoire et notamment durant la civilisation islamique. Une anecdote, on a rapporté que l'Espagne musulmane, qui était le phare à cette époque de la civilisation islamique,
l'Andalousie,
les Portugais, les chrétiens, qui voulaient reprendre l'Espagne, cette partie de l'Occident, envoyaient des missionnaires, envoyaient des espions, qui allaient voir l'état de cette communauté, l'état des musulmans en Espagne. Alors, ils sont partis et ils rapportaient bien souvent que les musulmans sont encore pleins de volonté, pleins d'ambition. Et on raconte que un de ces espions avait rencontré deux jeunes et leur a posé une question. Il leur a dit « De quoi parlez-vous ?» Et ils les avaient rencontrés en pleine altercation. Alors ils ont dit « Moi je prétends que ce livre a été écrit par tel auteur et lui me prétend que non, c'est écrit par tel autre écrivain. » Alors, voyant ce débat philosophique, ce débat scientifique, il est revenu déçu et il a dit à ses compatriotes, il a dit non, c'est pas encore le moment de les envahir, car les jeunes, la jeunesse est encore pleine d'ambition. Et des siècles plus tard, lorsqu'ils reviendront et qu'ils verront un jeune homme assis en pleurs, ils l'interrogeront, pourquoi pleures-tu? Et il dira, c'est parce que ma partenaire, ma copine m'a lâché. On dirait aujourd'hui. Et là, ils ont dit, c'est le moment. On peut y aller. Car la jeunesse s'est détournée des grandes ambitions et elle est tombée dans les plaisirs mondains de cette vie. Et mort en elle, cette volonté.
Je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire à juste titre. Ça nous rappelle un peu pendant la période de Ramadan, on a eu l'honneur d'avoir Ahmed Djibal, qui est donc historien des sciences. Et effectivement, il nous a apporté, on a fait une thématique sur l'apport des sciences des pays d'islam dans la construction de l'Europe. Et on a vu ce genre d'anecdotes, ce genre d'échanges qu'il y a pu avoir, et on en a su un petit peu plus. Donc ça va dans le même sens que l'anecdote que tu viens de citer, pour rappeler qu'effectivement, cette thématique, elle avait été soulevée, et c'est bien de mettre du lien entre ce qu'on a pu faire, effectivement, et le constat que la thématique que tu as abordée de par cette anecdote.
Alors, bien au contraire, lors de l'apogée de la civilisation islamique, on a des exemples illustres de ces génies musulmans qui avaient des grandes ambitions. On va en citer quelques-uns pour voir un peu l'ampleur de ces savants musulmans. Nous avons par exemple At-Tabari, qui est un grand exégète, un historien. Il a un jour rassemblé ses élèves, ses étudiants, et leur a dit, que pensez-vous qu'on écrive sur le tafsir, c'est-à-dire l'exégèse du Coran, l'herméneutique. Alors il a proposé à ses élèves d'écrire un tafsir du Coran de 30 000 pages. Ses élèves l'ont regardé d'un air étonné et lui ont dit, mais on va mourir avant même d'avoir écrit ça. Voyant l'ambition de ses élèves petites, il est descendu, il a baissé le niveau à 3000 pages. Ils ont terminé le tafsir, il prend ses élèves, il leur dit maintenant on va commencer à écrire l'histoire de l'humanité depuis Adam jusqu'à nos jours. En 30 000 pages. Et ils l'ont regardé étonné, ils lui ont dit mais on n'arrivera pas professeur, c'est impossible. Et là il a une parole qui est importante, il a dit les grandes ambitions sont mortes, ont dépéri. Déjà à son époque, il le voyait. Et effectivement, aujourd'hui, on ne cesse de baisser de niveau. On se met toujours au niveau de, des élèves. On descend, on baisse de niveau, les professeurs baissent de niveau. Alors, c'est peut-être une nécessité parfois, mais est-ce que c'est quelque chose de stratégique ? Il faut y penser. Moi, je pense qu'il faut garder un niveau assez élevé, pour que, justement, garder cette volonté, cette ambition dans le cœur des élèves. Bien sûr, en faisant participer d'autres paramètres, car ça ne suffit pas. Un autre exemple de Sarkhasi, qui est aussi un savant musulman, son livre Al-Mafsous, il l'a écrit, non excusez-moi, il ne l'a pas écrit, il l'a dicté à ses élèves alors qu'il était en prison. Il était en prison, regardez, en prison, et il dicte à ses élèves à travers les barreaux le livre Al-Mafsous qui se compose de 16 volumes. Alors, une petite note également pour nos frères, nos amis qui sont en prison. Je tiens à leur dire que si vous vivez un malheur, il peut y avoir un bien dans ce malheur. C'est l'occasion de faire son autocritique en prison, de réfléchir sur notre passé et de prendre des bonnes initiatives. On a l'exemple de Malcolm X qui est en prison et qui s'est cultivé et qui est sorti savant. Je veux dire, on peut profiter de ces malheurs entre guillemets pour se cultiver, pour faire son amendement et pour avoir de l'ambition. On a l'exemple de Youssouf par excellence. La meilleure des histoires, c'est l'histoire de Youssouf. Youssouf qui est en prison des années et des années. Et pourtant, il cultive une ambition. Il fait la da'wa, le prêche dans la prison. Et il pense à l'économie de son pays, puisque lorsque va venir le voir le serviteur du roi, et qu'il lui proposera le rêve du roi, il va lui exposer une théorie économique. Et regardez, donc nous avons des exemples comme ça, comme Sarkhasi, comme Malcolm X, comme Youssouf, un prophète, pour nous dire cultivez votre ambition même dans ces occasions-là. Même dans ses malheurs. Alors Al-Munziri, un autre savant, At-Targhib wa At-Tarhib. Ce livre At-Targhib, cette encyclopédie, il l'a écrite en voyage. Regardez, en voyage. Alors le voyage d'avant, c'est pas le voyage de maintenant. On est sur un chameau, on est sur un cheval, et il écrit. Regardez, il profite de ses occasions, il ne perd pas son temps. An-Naysaburi, qui a écrit Al-Mustadrak al-Sahihayn, il l'a écrit de mémoire, alors qu'il avait dépassé les 70 ans. Et c'est un livre qui est une sommité, je veux dire. C'est un travail sur les traditions prophétiques de l'Bukhari muslim. Ce qui n'a pas été rapporté dans ce livre, et qu'il rapporte de mémoire après 70 ans. C'est-à-dire, il n'y a pas d'âge pour les ambitions. Al-Dhahabi, Siyar A'lam An-Nubala, 25 volumes, chaque volume de 500 pages.
Énorme.
Énorme. Et bien plus encore, son encyclopédie Tarikh al-Islam, qui contient plus de 200 volumes. Qui aujourd'hui a cette ambition d'écrire, on est épaté par ces fondateurs de la civilisation. Ibn Aqil, savant Hanafi du XIIIe siècle d'Irak, a écrit Kitab al-Funun de 400 volumes. Et il a dit, alors qu'il avait atteint 80 ans, il a dit, regardez cette parole, c'était un vers de poésie, il dit « Si mes cheveux dépérissent, sachez que ma volonté, mon ambition ne dépérit pas. Si mes cheveux tombent, ma volonté n'est pas tombée. » Il a dépassé les 80 années. Ibn al-Haytham, alors là nous étions dans le domaine de l'histoire, de toutes ces sciences, maintenant on va passer aux sciences proprement dites. Ibn al-Haytham, hein, qui est un grand scientifique, qui a décrit la structure de l'œil dans ses détails. Jusqu'à aujourd'hui, on a gardé cette structure de l'œil qui est celle qu'on connaît, qu'on a étudiée en SVT, hein, en seconde. Alors déjà à son époque, il avait déjà, et c'est lui qui a remis en cause la théorie qui était en vogue depuis les Grecs, qui disait que la vision, la lumière, venait de l'œil. Et aller sur les objets, les corps. Mmh. Et lui, il a remis en cause, il a dit non, la lumière vient des corps vers l'œil. Et ensuite, à travers le nerf optique jusqu'au cerveau. Mmh. Voyez? El-Idrissi. Alors, j'ai une anecdote sur El-Idrissi. Je me souviens, quand j'étais à l'école, un de nos professeurs d'histoire nous a ramené, on étudiait le Moyen-Âge, il nous a ramené la carte géographique vue par les occidentaux, vu par les musulmans, vu par les chinois. Et il nous a montré une carte de l'Idrissi. Et il nous a dit, regardez, donc chacun avait une vision erronée de, par rapport à aujourd'hui, erronée du globe. La Terre était bien sûr plate pour eux. Puisqu'ils disent que c'est Christophe Colomb qui a... Et c'est faux. Et je me souviens, le professeur avait fait une explication fausse. Il dit, l'Idrissi dit, comme tous les musulmans pensent à l'époque, que la Mecque est au centre du monde. Et que la Terre est plate. C'est faux. Dans ses livres, il dit. Et même, il a construit lui-même un globe. Il a fait la carte géographique du monde, puisqu'il a voyagé lui-même, la carte géographique du monde, et l'a découpée en 7 parties. Chaque zone en 10 zones. Et c'est une partition climatique. Et chaque zone, il en a fait une carte. C'est-à-dire 70 cartes, plus une carte mondiale. Et il était du 12e siècle. Et Christophe Colomb n'est venu que au 15e siècle. Regardez. Mmh. Alors, on terminera par Edison. Edison, hein, du 19e, 20e siècle.
Thomas Edison.
Mmh. Hein, ce génie. Ce génie de sciences techniques. On dit qu'il a 1093 inventions. Phonographe, lampe électrique, hein, le télégramme, la radio, la télévision, la photographie cinématographique, un génie. Il était pourtant mauvais à l'école. On dit qu'il était, de sa biographie, il était mauvais à l'école dans ses débuts. Même les professeurs se moquaient de lui. Même le médecin disait qu'il était un peu fou. Et pourtant, sa mère était derrière. Hein? Mmh. Sa mère était derrière et c'est elle qui l'a éduqué et qui lui a inculqué cette ambition. Et elle a accepté qu'il ait un laboratoire dans sa maison, et c'est là qu'il a développé cet amour des sciences, etc., etc. Et il a reçu la médaille d'argent par le Congrès. Hein, et il est mort et il était croyant. Hein, je rajoute ça, il était croyant. Mm-hmm. Il n'y a pas de contradiction entre science et religion, comme nous le savons. Alors voilà des exemples de scientifiques.
Voilà, on est dans la cour des grands.
Ah oui, la cour des grands, bien sûr.
On est dans la cour des grands, effectivement. Il est bon de citer un certain nombre d'illustres personnages qui sont rentrés dans la postérité, hein, puisqu'on en parle jusqu'à maintenant encore. Mais derrière, il y avait effectivement une forte ambition de produire.
Puisqu'ils ont le même cerveau que nous. C'était des êtres humains comme nous. Mm-hmm. Hein? Nous avons aujourd'hui des moyens de connaissance plus développés qu'eux. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est fatigant entre ces grandes personnes et nous? Alors que les moyens de communication, de connaissance sont plus développés. Hein, on peut apprendre dans un ordinateur, on peut... Je veux dire, même les conditions de voyage sont bien, on racontait, hein, celui qui voyage dans des conditions qui étaient difficiles, et pourtant il écrit. Non, c'est l'ambition qui change. Tout simplement, c'est une question d'ambition, de projet, hein, de foi, de volonté de faire. Alors voilà.
Le fait aussi peut-être de vivre dans une société où il y a de moins en moins d'efforts pour justement accéder, ça devrait être une facilité pour accéder au savoir, mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, la notion d'effort, à mon avis, elle doit être pour quelque chose.
Ah oui.
Chez les jeunes, il y a de moins en moins d'efforts. Quoi.
Bien sûr.
Bon, alhamdoulilah, au niveau de tout ce qui est le fait de se vêtir, se nourrir, enfin, ce minimum fait en sorte que les personnes ne produisent pas trop d'efforts. Donc c'est peut-être ça à travailler. On aura la même fin.
C'est vrai.
Tu l'aborderas peut-être après.
Oui, ça va venir, hein, quand on verra les pourquoi
de ce manque d'ambition.
D'ambition, oui.
Bien, on va fait une petite course aux pauses après cette introduction à travers diverses personnes sur la thématique. La notion de projet à mettre en place, bien sûr guidée par une grande ambition derrière. On va essayer de voir quels sont les éléments qui peuvent justement nourrir cette ambition et donc aboutir à des projets, réfléchir aux différents paramètres, hein. C'était un par exemple ici, sur la notion d'effort, quels paramètres pourraient aller à l'encontre justement de ces ambitions qui pourraient donner naissance à de grands projets. Va t'en passer de 53 minutes, quelques 2 minutes de pause, et on se retrouve tout de suite après, Charles. Ça va être cool. On va t'en passer de 58 minutes, après ces quelques versets de Coran, on reprend la suite de l'émission. Juste, Atman, avant que tu reprennes donc sur la thématique de l'ambition derrière qui pourrait générer des grands projets, juste par rapport aux auditeurs et aux auditrices qui voudraient poser un certain nombre de questions, sur la thématique ou autre, on va plutôt aborder la thématique ce soir. On va essayer de noter quelques questions sur feuille. On essaiera de prendre un peu de temps en fin d'émission si on le peut pour y répondre. Toujours est-il que on va essayer de privilégier la thématique ce soir sans laisser le direct. On y reviendra sur la deuxième partie de l'émission si éventuellement on peut se permettre de répondre à quelques questions. D'accord. Donc voilà, ça c'était pour les auditeurs et les auditrices. Je rappelle le numéro du standard à tout hasard, 0320 73 59 00, 0320 73 59 00. Donc voilà l'introduction. On a donné quelques exemples d'illustres savants dans le monde musulman et dans le monde profane, si je peux dire, dans le monde non musulman, sur des grandes personnes qui ont, de par leur ambition, accompli de grandes œuvres.
Exactement, oui, c'est parangon de l'ambition. Et bien sûr, ça on le verra plus tard, mais je note maintenant le fait de citer ces personnes, le fait de relater la biographie, ces pages illustres de l'histoire, ça fait naître en nous d'abord un étonnement, puis ensuite une envie de leur ressembler. C'est pour ça que c'est très important l'histoire. Un peuple sans histoire, coupé de ces grands personnages, ne verra pas en lui une grande ambition, parce qu'on a besoin de modèles pour continuer. Alors, on va passer, après cette introduction, à l'étape de la conceptualisation. Qu'est-ce qu'on entend par projet? Alors, peut-être commencer par un exemple pour clarifier l'idée. Je dirais que le projet, c'est l'exemple d'une voiture. Une voiture, la route, c'est l'islam. Cette voiture est sur une route. Cette route, c'est l'islam. La destination, ou le projet comme fin ultime, c'est le paradis. Le carburant, c'est le gasoil, c'est l'ambition. C'est-à-dire que cette voiture, elle a besoin, pour atteindre sa destination, de l'ambition. Et tu n'atteindras ta destination, la vitesse à laquelle tu atteindras cette ambition dépend de ce carburant, de la qualité de ton carburant, de la qualité de ton ambition. Le volant, c'est la raison. Tu as besoin, après avoir eu cette ambition, de conduire ton ambition, ton projet, par ta raison. De mettre une stratégie. Et on verra en détail les critères, la stratégie adoptée, comment la raison doit intervenir pour nous donner des objectifs à court et long terme. Le code de la route, c'est la foi. Tu as besoin, en empruntant avec ton projet cette voiture, pour atteindre cette destination, tu as besoin d'un code de la route. Sinon, il va y avoir des accidents. Sinon, tu peux te tromper de chemin. Alors, tu as besoin d'un code de la route, c'est la foi. Et ta connaissance du code de la route, donc ta connaissance de la foi, c'est elle qui va faire la différence entre toi et celui qui réussira. Les intempéries que tu pourras rencontrer sur cette route, ce sont les épreuves de la vie. Alors, pour faire face à ces intempéries, tu as besoin de bien connaître le code de la route. Comment conduire en temps de pluie, comment conduire en temps de neige. Toutes ces intempéries, toutes ces épreuves, on en a besoin. Donc voilà, à toi de choisir ta voiture. À toi de choisir quelle voiture veux-tu pour atteindre ton objectif. La voiture, c'est le projet, comme on a dit. La route, c'est l'islam, car tu n'emprunteras, il ne faudra pas emprunter une autre route, car là, tu n'atteindras pas la bonne destination. La destination finale, le projet en tant que but final, c'est le paradis. Hein, voilà ce que vise le musulman. Le carburant, c'est l'ambition. Mmh. La raison, c'est le volant. C'est elle qui te guide. Et tu as besoin d'un code de la route, et c'est la foi. Alors, il y a un projet commun à tous les êtres humains. Il est clair, il a été donné dans le Coran. Et heureusement, car si c'était à nous de définir notre projet en tant projet ultime, mmh, hein, à tous les êtres humains, on le ferait par passion, par intérêt. Non, Dieu nous a dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les créatures humaines et non humaines que pour qu'ils m'adorent. Le but de notre création, donc le projet en tant que but ultime, parce que vous avez le projet en tant que moyen. Mmh. Nous avons le projet en tant que but ultime, c'est la satisfaction de Dieu. C'est plaire à Dieu. Et ce projet ultime, il est libérateur, il est fondamental. Aujourd'hui, les maux que nous vivons, les complexes que nous vivons, viennent du fait que nous n'avons pas compris le projet ultime. Regardez autour de vous, les hommes, les femmes, les jeunes et les moins jeunes. Regardez quelle est la source, hein, de leurs maux, la source de leur malheur. C'est que ils sont prisonniers du regard des autres. En tout cas dans notre société aujourd'hui. Mmh. On vit par rapport au regard de l'autre. Et comme on ne peut pas plaire à tout le monde, on est devant un dilemme. Je dois plaire à un tel, je dois plaire à l'autre. Non, nous on doit plaire à Dieu, tout simplement. On doit plaire à Dieu. Mmh. Et ça c'est libérateur et c'est fondamental. Et c'est même naturel. Hein, on recherche tous à plaire à Dieu. C'est quelque chose de naturel. Ensuite, vous avez les projets particuliers, hein, les micro-projets qui vont nous mener vers ce projet ultime qui est plaire à Dieu, hein, son amour. Avant d'aborder les projets particuliers, prétendre à ce projet qui est l'amour de Dieu, sa satisfaction, regardez ce que Dieu nous dit. Car même quand je prétends plaire à Dieu, je peux lui plaire de différentes manières. Et je peux me tromper dans la manière de lui plaire. Mmh. Oui ou non, hein, nous sommes différents, sure. Nous avons des intérêts, etc. Non, Dieu nous dit, dans Sourate Ali Imran, « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ » Dis, ô vous, les êtres humains, si vous prétendez atteindre mon amour, c'est-à-dire cet objectif ultime, mmh, alors suivez le prophète. Et vous atteindrez ce projet ultime. Autrement dit, vous avez un projet ultime qui est l'amour de Dieu. Les micro-projets, les projets particuliers, qui sont les étapes intermédiaires pour atteindre ce grand projet, ils doivent être à la lumière du prophète. Et voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple dans tous nos projets. C'est un modèle en tant que père de famille, en tant que pauvre, parce qu'il a été pauvre, en tant que riche, parce qu'il a été riche. En tant que mari, en tant que
citoyen
dans une cité, en tant que citoyen, en tant que chef d'État, en tant que guerrier, tous les micro-projets pour atteindre ce projet ultime qui est la satisfaction de Dieu, nous les avons en notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les projets particuliers, il y a un critère général pour ces projets particuliers qu'on pourrait tous avoir. Hein, je veux qu'on englobe tous les projets, que je sois que je travaille dans le social ou dans l'humanitaire ou dans n'importe quel projet que je peux avoir dans ma vie. Il y a en tout cas une obligation qui nous est demandée. Et Dieu nous le dit dans le Coran, dans Surat al-Mulk et dans Surat Hud aussi. Dans Surat al-Mulk, il dit تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. J'ai créé la vie et la mort, autrement dit votre existence. C'est quoi le but de votre existence? C'est que je vous mette à l'épreuve afin de savoir qui de vous aura le meilleur des projets. أحسن عملا. Il n'a pas dit أكثر عملا, qui aura le plus de projets. Non, il a demandé la qualité. La qualité. Car la quantité de projets, elle varie d'une personne à l'autre, selon ses moyens. Alors si c'était le critère, la quantité, il y aurait une injustice. Car moi, je n'ai pas les moyens d'avoir de grands projets. Non, il t'est demandé dans ton projet, dans ce que tu fais dans ta vie, dans ta profession à toi, quelle que soit ta profession, que je sois, que je balaie la rue, que je sois charcutier, que je travaille dans le social, que je... caissier, ce que vous voulez. Il t'est demandé une chose, d'être le meilleur. La perfection et l'application dans ton travail. Et là, vous avez, Dieu nous met sur un pied d'égalité. Parce qu'on on fait tous un travail, et on peut tous être les meilleurs dans notre travail. Mmh. Alors, aussi une autre note, ici, quand je parle de projet, je ne parle pas du projet... Par exemple, métro, boulot, dodo. Non, c'est pas ça. Je parle pas de ce projet. C'est-à-dire que je pars au travail, je rentre, voilà. Hein, j'ai ma rente, j'ai mon salaire à la fin du mois, j'ai accompli mon projet. Non, le projet, c'est ce qui hante ton esprit. C'est ce pourquoi tu vis. Il n'y a pas de temps pour ce projet. C'est ce qui t'anime. C'est ce qui t'anime. Ta profession peut t'animer. Hein. Il s'agit d'être passionné dans notre projet. Hein. Avoir de l'ambition. Et l'ambition n'a pas de limite. C'est ce qui occupe ton esprit, ton cœur, durant toute ta vie. Car si je parlais de projet simplement, comme on pourrait parler de projet, tout le monde a un projet, finalement. Tout le monde a un projet. Oui. Mais ce projet de tout le monde, c'est le projet... C'est, hein, comme je viens de dire... je travaille, je rentre, et voilà, hein, j'ai accompli mon projet, je peux dormir la conscience tranquille, ouais, j'ai pas de famille, j'ai pas d'autres projets. Hein, c'est juste, non, je parle du projet qui anime notre cœur et qui hante notre esprit. Alors, quelles sont les qualités requises pour mener à bien un projet? Premièrement, et on l'a déjà évoqué, on insiste dessus, c'est l'ambition, la volonté, l'endurance, le courage. Tout ça, ce sont on les met dans le même sac. Hein, l'ambition, le courage, l'endurance, la volonté. Alors, on parlait d'Edison. Regardez ce que dit Edison. Edison dit, mon génie, c'est 2%. 2% d'intelligence et 98% d'effort. Regardez. 2% d'intelligence, Edison, hein. Et nous avons évoqué, hein, son génie. Il dit 2% de ses propres mots, il dit 2% d'intelligence, 98% d'effort. Même si j'ai une petite idée, un petit projet, grâce à mes efforts, il peut être grand. Regardez Omar ibn Abdelaziz. On dit c'est le cinquième calife de l'islam. Les quatre premiers, on les connaît. Il y en a eu des autres après, mais on considère comme étant le cinquième calife parmi les grands califes, hein, les califes bien guidés. Il dit, avant d'occuper ce poste, il était un citoyen comme tout le monde. Il dit, je rêvais, j'avais comme ambition, premièrement, d'être ministre. Quand je fus ministre, j'ai eu comme projet de me marier avec la fille du calife. Quand je me suis marié avec la fille du calife, j'ai eu comme projet d'être le calife. Et je suis calife aujourd'hui, et j'ai comme projet d'entrer au paradis. Regardez. À chaque fois qu'il atteint son objectif, il a toujours un objectif plus grand. Et l'objectif ultime, quand il est devenu calife, c'est entrer au paradis. Aussi, vous savez, les restaurants KFC.
Ouais.
Hein, c'est connu.
On y très mange. Connu.
Alors
très
vous
connu.
Connaissez l'histoire.
Pour pas faire de pub.
Pour pas faire de pub. Ouais.
Alors vous connaissez l'histoire de cette personne. Vous voyez l'emblème. Hein, on voit c'est la tête de la personne est âgée. Apparemment ouais. Elle a une barbichette.
Barbichette.
C'est une personne âgée. Alors c'était un ouvrier, quelqu'un qui travaillait comme le commun des mortels, comme le commun des Américains. Et puis, après avoir vieilli, il a dit, je vais changer de projet. Ou bien, je vais plutôt me créer un projet. Un projet qui m'anime, un projet que j'ai toujours dans le cœur. Et il s'est lancé dans la restauration. Alors que ce qu'il faisait avant n'avait rien à voir. qui s'est lancé dans la restauration, et on raconte que ses amis appréciaient les poulets qu'il faisait. Quand il les invitait pour un barbecue, il faisait un poulet, il mettait une certaine chapelure au-dessus. Vous savez, la chapelure qu'on trouve sur les poulets, hein, poulets KFC. Et il a fait, durant 2 ans, le tour des États-Unis. Il a voyagé dans tous les États-Unis, il dit plus de 1900 tentatives. Il est parti chez les grands restaurants, il est parti chez les promoteurs pour présenter ce produit, qui est le poulet avec la chapelure, hein, qui enrobe le poulet. Il a loué son appartement, il vivait dans sa voiture, il a tourné dans les États-Unis comme ça pendant 2 ans. 1900 tentatives, vous imaginez ? Il n'a pas baissé les bras, et à la fin il a réussi son projet. Regardez aujourd'hui, hein, il vit sur l'or. Alors si pour un projet comme celui de ce fondateur de Kentucky, il a fait 1900 tentatives, que pensez-vous de nous musulmans qui visons le paradis ? Combien de tentatives devons-nous faire ? Si une personne comme lui, qui n'était pas animée par le paradis, a fait 1900 tentatives et qu'elle a patienté, alors que pensez-vous de nous ? Où sommes-nous du paradis ? Deuxième qualité, après l'ambition, la volonté, l'endurance, c'est l'imagination fertile ou l'esprit d'initiative, être créatif. Être créatif. Avoir une ambition, c'est d'abord avoir un esprit d'imagination. Être débrouillard, faire avec les moyens du bord. C'est ça. Le contraire serait d'être irréaliste. Hein, on est entre les deux. Hein, on n'est pas dans la non-ambition, on n'est pas dans l'irréalisme. Nous sommes entre les deux, il faut avoir une imagination fertile. Aussi une petite anecdote, un Américain...
Encore ?
Oui.
Non, c'est pas grave.
...a écrit une lettre...
C'est pas le centre du monde. Hein. On va quand même l'accueillir pendant l'anecdote. Allez.
D'accord. Il a écrit une lettre, à ses concitoyens américains. Il lit dans la lettre, « Si vous voulez connaître l'astuce pour gagner $1,000,000 facilement, envoyez-moi $1 dans une lettre et je vous répondrai. » Et bien sûr, il a envoyé cette lettre à
1 milliard de personnes.
Voilà. Et donc, il leur a répondu en disant « Faites comme moi. Faites comme moi. » Voilà, c'est une anecdote.
Ouais, bien sûr.
Hein, pour dire qu'on peut imaginer, hein, des astuces. Ouais. Pas aussi rocambolesque que celle-là. Bah, ouais. Mais hein, être imaginatif. Troisièmement, après l'ambition, l'imagination fertile, l'organisation et la gestion du temps. C'est primordial. Gérer son temps. Celui qui ne gère pas son temps, il aura des petites ambitions. Obligé de gérer son temps. Son sommeil. Je lisais quelqu'un qui faisait une étude sur ces gens ambitieux, ces grandes personnes. Il disait, à cette époque, hein, notre époque contemporaine, il dit, les personnes que j'ai rencontrées, hein, ces génies, il ne dormait pas plus de 7 heures.
Il dormait très peu. Ouais.
Il dormait très peu. Et c'est pas compliqué. Regardez combien de temps on dort. Environ 8 heures. C'est un tiers de notre journée. Ce qui veut dire un tiers de notre vie, nous la passons dans le... Bon, c'est primordial de dormir, bien sûr. Mais imaginez-vous si vous arrivez à diminuer votre sommeil de 1 heure. Imaginez-vous le matin, vous réveillez 1 heure avant. Imaginez-vous combien vous allez gagner dans votre vie de temps. Et pendant 1 heure, vous pouvez faire beaucoup de choses pendant 1 heure. Lire pendant 1 heure. Aujourd'hui, on a besoin de lire. Lire pendant 1 heure. Ou faire autre chose pendant 1 heure. Gérer son temps, son sommeil. Alors, on a plein d'exemples. Edison, hein, il parlait de son sommeil. Al-Bukhari, Imam Bukhari, très connu. Il passait des nuits entrecoupées de sursauts. Tellement il était pris par son ambition d'écrire, de rassembler les traditions du prophète, qu'il serait jusqu'à 20 fois dans la nuit. Il se réveillait, il avait un hadith qui lui venait en esprit, il l'écrivait, il repartait. Il se réveillait juste après. Un autre exemple, l'imam Nawawi, c'est encore pire entre guillemets. Cet imam Nawawi qui a vécu qu'une trentaine d'années, et pourtant il nous a laissé des livres incroyables. Oui, il est mort très jeune, il ne s'est pas marié d'ailleurs. Celui qui l'accompagnait, son disciple, disait qu'il ne dormait que lorsqu'il était éreinté, il dormait sur sa table. Il écrivait jusqu'à ce qu'il soit épuisé, il dormait un petit peu, il se réveillait. Hein, il a sacrifié toute sa vie pour la science, et on voit les résultats. Alors, on ne dit pas qu'il faut être comme eux, Mais simplement, ces exemples, c'est pour prendre conscience de l'importance du temps, de la gestion du temps. Quatrièmement, la discipline et la maîtrise de soi. Le contraire serait d'être sous l'emprise de ses passions, d'être capricieux. Celui qui ne maîtrise pas ses passions, celui qui ne maîtrise pas ses désirs, il ne peut pas. C'est contradictoire avec l'ambition. C'est contradictoire avec l'ambition. Car l'ambition, elle demande de faire des efforts. Et les efforts, c'est d'abord un effort sur soi. Hein? C'est d'abord se priver de ces choses auxquelles nous invite la société tous les jours. Aller au cinéma, rester sur Internet, voir les films, aller manger dehors. Tu es obligé de mettre des limites à ces plaisirs pour pouvoir avoir un projet ambitieux. Une histoire, un homme vertueux, pourtant un homme qui est comme nous, je veux dire, c'est pas des gens qui étaient sur notre planète, qu'ils étaient sur Terre comme nous. Et regardez, quelque chose de simple. À chaque fois qu'il voulait, qu'il désirait une pomme, qu'il voulait manger une pomme, car il aimait les pommes, donc il était devant une pomme, il voulait l'acheter, il disait non, je me retiens, je vais prendre l'argent que je voulais dépenser pour acheter cette pomme, je vais la mettre dans une tirelire. Il a fait ça pendant un nombre d'années, des dizaines d'années, et à la fin il a construit une mosquée, grâce à cet argent qu'il a économisé par la privation des pommes. Et cette mosquée existe jusqu'à nos jours, et d'ailleurs elle porte le nom, alors je ne sais plus très bien, mais le nom de cette mosquée renvoie à la parole qu'il disait quand il est devant cette pomme. Hein, il disait non à son ego, il disait non, je me retiens pour manger une pomme. Et la mosquée porte le nom de cette parole. Alors, on peut économiser nous-mêmes, c'est pas quelque chose de compliqué. Je sais pas, par exemple du coca. Hein, je diminue ma consommation de coca. Je diminue ma consommation, les consommations superflues. On ne parle pas des nécessités de la vie. Sur un produit, faites l'expérience sur un produit. Et l'argent que vous allez donner, les 1 euro chaque semaine, les 2, et je pense que c'est plus, hein, 5 euros on dira. Alors imaginez sur une durée de 20 ans combien vous allez économiser d'argent. Imaginez-vous.
Déjà sur un mois ça fait une vingtaine d'euros, c'est le prix d'un livre.
Voilà, voilà. Ou la diminution de, par exemple, la consommation d'alcool pour ceux qui en boivent. La cigarette. On peut faire des grandes économies sur ça.
Sûr.
Alors, cinquième qualité, la sagesse. C'est-à-dire tirer des leçons des expériences des autres. Tirer des leçons des expériences des autres. Être intelligent et éveillé. Ne pas être naïf ni insouciant. Alors, notre prophète nous donne l'exemple. Un jour qu'il était avec ses compagnons, après le pacte de l'Hudaybiyah, les compagnons étaient, alors, rapidement, hein, ils voulaient partir faire la Umrah, d'accord, leurs ennemis de la Mecque leur ont interdit. Hein, ils les ont expulsés de chez eux, ils voulaient revenir juste pour faire ce petit pèlerinage, cette Umrah, et leur ont interdit. Il y a eu un traité qui était injuste, en défaveur des musulmans, mais le prophète, pour des raisons bien précises, a accepté. Et il leur a dit, on ne va pas partir faire la Umrah, mais, vous savez, l'ihram, hein, vous allez vous libérer de ce ihram, cet état de sacralité, coupez vos cheveux. Et ils ont refusé, car ils étaient sous l'emprise de la colère. Il est rentré, fou de colère, le prophète, chez sa femme Umm Salama. Et il a dit, ma communauté, mon peuple est perdu. Ils ont désobéi à leur prophète. Et là, Umm Salama, cette femme sage, lui a dit, prophète, toi sors, coupe tes cheveux, et tu verras qu'ils vont te suivre. Alors, est-ce que le prophète lui a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es qui, toi? Tu parles à un homme d'État. Comment tu peux me donner des conseils? Non, il a écouté sa femme, il est sorti, il a fait ce qu'il a dit. Il a fait ce qu'il a dit, il a coupé ses cheveux, et les gens l'ont suivi. Et on dit que Umm Salama a sauvé la communauté de la perte. Regardez. Parce que elle a donné conseil, et le prophète a accepté. Il a tiré une leçon de cette parole de cette femme inspirée. Alors, sixième qualité, c'est l'avant-dernière, avoir le sens des priorités. Avoir une faculté d'adaptation pour gérer les difficultés. Vous savez, un des gros problèmes dont nous souffrons aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas comment gérer nos priorités. Où sont nos priorités? Surtout dans notre jeunesse. Hein, ils mettent l'accent sur des choses qui n'en valent pas la peine, qui sont futiles. Ils oublient les priorités. Et l'une des grandes priorités, c'est d'avoir un projet ambitieux. Mais ils oublient ça. Et c'est malheureux durant leur scolarité. Ils oublient qu'ils sont là pour préparer un projet pour plus tard. Et c'est après qu'ils s'en mordent les doigts. Gérer les priorités. Avoir un sens, hein, des priorités. Et les priorités, ça demande des efforts. Car mettre des priorités, c'est parfois aller à l'encontre de ses désirs. Je donnerai un exemple. Ibn al-Mubarak, un homme vertueux également. Ibn al-Mubarak, c'était un homme commerçant, savant, qui a réussi dans cette vie et dans l'au-delà. Il partait tous les ans au Hajj. Il allait faire le Hajj. Et un jour, alors qu'il se préparait pour aller au Hajj, il prend la route et il trouve près de la décharge publique une femme. Il la voit en train de faire les poubelles. Alors il descend, il va la voir, il lui dit « Mais que faites-vous ? Que fais-tu ? Hein, que Dieu te protège, mais que fais-tu dans ces ordures ?» Alors elle lui dit « Je n'ai pas à manger. » Et elle ramasse une poule morte. Elle dit « Je n'ai pas trouvé à manger pour mes enfants depuis des jours. Alors je vais leur prendre ce cadavre et ils vont le manger. » Et là, regardez, le sens des priorités intervient dans l'esprit de Ibn Mubarak et il donne tout son argent à cette dame. Regardez, il a sacrifié le Hajj pour une urgence qui est sauver la vie d'une personne et des enfants. Un jour, un compagnon est venu voir le prophète, il lui a dit « Prophète, je veux aller faire le jihad, c'est-à-dire je veux aller combattre mes ennemis pour plaire à Dieu. » Et il lui a dit « Est-ce que tu as des parents ?» Il a dit oui. Il a dit non. Ton combat, c'est d'aller auprès de tes parents. Regardez. Elle avait un projet ambitieux. C'est d'aller au rang de l'armée pour combattre, qui est un projet ambitieux. Grand, il avait besoin de soldats. Et pourtant, il l'a renvoyé au sens des priorités. Tu as des parents, reste aux côtés de tes parents. C'est plus prioritaire. Dernière qualité. Et c'est l'une des qualités les plus importantes, c'est la foi, l'espoir, le fait de s'en remettre à Dieu. Quand on a un projet ambitieux, il faut s'en remettre à Dieu. Dans Sourate Al-Imran, Allah Azza wa Jal dit فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Lorsque tu as pris une décision ferme, donc tu as un projet ambitieux, tu as tout calculé, tout est bon, tout est clair, je prends la décision de me lancer dans ce projet, remettant à Dieu. Car parfois on a peur de l'avenir. Bien souvent on a peur de l'avenir. Mmh. Et heureusement qu'on a cette foi en Dieu. Hein, que Dieu c'est lui qui finalement, c'est lui qui tient toutes les ficelles de l'avenir. Après avoir fait mes efforts, je m'en remets à Dieu. Le résultat est entre les mains de Dieu. Le contraire serait de se croire suffisant, arrogant, de croire qu'on est capable de tout. Non, ça c'est une erreur. C'est une erreur. Alors voilà, c'était sept qualités, je les répète rapidement. L'ambition, l'imagination fertile, l'organisation et la gestion du temps, la discipline et la maîtrise de soi. Cinquièmement, la sagesse, tirer des leçons de l'expérience des autres. Sixièmement, le sens des priorités. Septièmement, s'en remettre à Dieu. Voilà.
Bien, clafé pour l'énumération de ces conseils. Alors bien entendu, ils ont été un petit peu énumérés. On a donné quelques anecdotes, il serait bon aussi pour que chacun d'entre nous puisse y réfléchir dans son contexte, dans son milieu, pour pouvoir justement essayer de travailler ces qualités-là qui permettraient justement d'alimenter le moulin à projet, si je puis dire, pour dans son intérêt, dans l'intérêt général. On va faire une pause, on y reviendra là-dessus. J'avais une petite anecdote ou deux aussi pour illustrer aussi les thématiques, enfin les points que tu viens d'énumérer. On va reprendre ça après la pause. Abdelkader, tu voulais rajouter quelque chose, non? Farid, vas-y. Ça n'a pas l'air l'ADN, donc interruption au cours des solades. C'est des longues solades que tu nous mets, qui fait qu'on est obligé parfois de couper
au milieu de la solade.
Mais on laisse le verset se terminer. Donc, Sadak al-Abadi, 21h passé 32 minutes. Il nous reste une petite demi-heure avec Ratman. On a abordé... Oui.
Non, j'allais dire sujet hyper intéressant.
Bah, intéressant et on... J'irais ambitieux parce que ça nécessite beaucoup de développement derrière aussi. Et on parlait justement de la notion de projet à mettre en place et l'ambition qui est le moteur de ces projets. On a rappelé que le projet ultime c'est de plaire à Dieu puisqu'on c'est l'objet même de notre création, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et donc de lui plaire. Et qu'il faut pour atteindre ce projet ultime mettre en place un certain nombre de petits projets pour atteindre des stades, quoi, si je puis dire. T'avais cité un certain nombre de qualités et de préliminaires justement à développer pour pouvoir justement mettre à profit, mettre en œuvre un certain nombre de projets. On va les énumérer pour éventuellement donner quelques petites anecdotes. À parler de l'ambition et la patience qui doit y régner aussi derrière, qui va justement être le moteur à ces projets. Bien entendu, faire preuve de créativité et beaucoup d'imagination pour pouvoir choisir les solutions, les pistes possibles pour atteindre ce projet. Bien entendu, projet mis en œuvre dans le temps, donc il faut aussi gérer le temps. On a cité un petit peu l'idée de gérer le sommeil, par exemple. Dormir moins, produire un peu plus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ne pas dormir, parce que c'est quand même une réalité humaine, mais on avait sur la gestion du temps, on avait...
Je pense que dans la gestion du temps, il faut que celui qui prétend gérer son temps, je pense il faut qu'il prenne une feuille et un stylo, et qu'il se fixe un programme. Mmh. Hein? Par rapport à... Alors nous avons un programme par rapport à l'école, par rapport à notre travail. Alors on fait notre programme et on met des objectifs à court terme et à long terme. Cette semaine, je me fixe comme objectif, par exemple, alors j'ai un devoir un DM de français, par exemple, il faut que je lise tel livre. Voilà, cette semaine, je vais lire tel livre. Et puis la semaine suivante, je vais lire tel livre. Et je mets ça sur une feuille. Et à la fin de la semaine, je fais le récapitulatif. Mmh. Et vous avez des programmes qui sont sur une année. Par exemple, celui qui a comme projet ambitieux d'étudier un thème. Il se fixe un projet sur un an. Voilà, le thème de mon année, c'est par exemple d'étudier cette partie, hein, cette époque de l'histoire, l'époque du Moyen-Âge. Alors, il se fixe un programme sur une année. Ce mois-ci, je vais étudier tel domaine. Et voilà, etc., etc. Ou bien, autre chose... je vais apprendre le Coran. On peut avoir cette ambition, cette grande ambition. Alors je vais apprendre autant de versets par jour. Et puis, etc. Et ça, c'est un individu. Hein. Donc il doit être créatif, se fixer des beaux projets. Et en même temps, être précis dans ses projets. Et écrire ça sur une feuille. C'est important d'écrire sur une feuille. Ou sinon, les projets s'éteignent. Mmh. Si c'est pas noté, s'il n'y a pas un suivi, s'il n'y a pas une volonté qui est mise par écrit... C'est très dur de tenir.
Donc ça c'était pour compléter ce par rapport à la gestion du temps. Je termine l'énumération des différentes qualités à essayer de développer et de travailler. Bien sûr, tu avais parlé de la discipline de soi, hein, c'est-à-dire avoir une certaine maîtrise de soi. Donc ça veut dire mieux se connaître pour être plus efficace. Donc il y a tout un travail d'introspection derrière. On avait parlé de tirer des enseignements aussi des autres. Donc avoir la sagesse derrière d'échanger et de pouvoir tirer du meilleur de la personne qui est en face, à travers ses qualités bien entendu ou à travers ses défauts, puisqu'on a tous des qualités et des défauts. Préciser aussi le sens des priorités. Donc ça relie aussi avec la gestion du temps, hein, c'est-à-dire que à partir du moment où on a hiérarchisé les différentes tâches à accomplir pour un projet, on sait à ce moment gérer mieux son temps. Et l'ultime, ça c'est la foi qui intervient derrière, c'est quand on a mis en place tous ces éléments, on s'en remet après Allah, puisque c'est lui qui a la décision finale sur l'issue du projet. Donc voilà, j'ai essayé de résumer et de rappeler un petit peu les différents points.
Quant à moi, je retiendrai quand même une chose, hein, c'est vrai quand on entend sur la méthodologie ensemble du projet, enfin projet de vie, hein, le but ultime, ce que tu disais, au préalable, c'était de plaire à, c'est de plaire à Dieu. C'est le fait que chacun dans son domaine, parce qu'on est tous différents, on a tous des projets qui diffèrent, professionnels, de vie, mais c'est bon dans son projet en termes de en qualité. Ça, c'est hyper important. Parce que quelqu'un qui choisit de se professionnaliser dans telle ou telle branche, il doit être excellent dans son projet. Quelqu'un qui va être, parce qu'on a eu des exemples. D'excellents exemples, mais les petits métiers, quels qu'ils soient, pour qu'une société fonctionne, font en sorte aussi que chaque individu, à travers sa profession, garagiste, boulanger, il faut qu'il soit excellent là-dedans pour qu'une société fonctionne. Oui. Que chacun s'y retrouve, et ça rappelle une seule chose, c'est que Dieu est juste avec tout le monde.
Exactement. Mmh. C'est-à-dire que le boulanger, moi qui suis professeur, moi qui suis économiste, j'ai un projet. Le boulanger peut, aux yeux de Dieu, avoir plus de valeur que moi. Parce que il a été réglo, il a été une personne de confiance dans son travail, il n'a pas triché, il n'a pas menti. Tandis que moi, économiste, ou moi, homme politique, hein, bien que j'ai ce projet ambitieux, je n'ai pas été à la hauteur. Ce qu'il faut, c'est être à la hauteur de son projet, quel qu'il soit. Il n'y a pas de discrimination. Pas de discrimination. Car ce qui fait la noblesse d'une personne, comme le dit Allah, ce qui fait la différence entre les êtres humains, c'est leur piété. Et la piété, on ne peut pas la mettre dans un métier particulier ou dans une couche sociale particulière. Non. La piété, c'est quelque chose qui est dans le cœur, qui ne se voit pas, qui se pratique. Donc dans mon métier, quel qu'il soit, hein, il n'y a pas de discrimination, je peux être meilleur que celui qui, comme on le dit, est meilleur que moi, hein, c'est-à-dire dans les conventions sociales, il est meilleur que moi-même, je peux être meilleur que lui aux yeux de Dieu. Mm-hmm. Hein, il n'y a pas de... Alors, pour ce qui est le domaine des priorités, parce que c'est assez vague, assez flou et assez théorique finalement, on va entrer dans les détails. Comment définir le meilleur projet? Alors là, on ne peut pas donner un projet absolu. Hein, celui-là, c'est le meilleur projet. Non. Vous allez voir qu'on va découper, hein, on va classer cette qualité meilleure du projet en fonction de, premièrement, selon ma responsabilité et mon rôle. Deuxièmement, selon ma fonction. Selon mes compétences, puis selon les circonstances, et enfin selon le milieu. Ces cinq parties... Nous sommes obligés de classer les projets selon ces cinq parties. Vous allez voir pourquoi. Quel est le meilleur projet selon ma responsabilité et mon rôle? Je suis père de famille actif. Quel est mon meilleur projet? Alors, moi qui est père, je suis responsable de ma famille. Autrement dit, mon meilleur projet, c'est de rendre heureux ma femme et mes enfants. Puisque je suis responsable d'eux-mêmes, le meilleur projet en tant que père, c'est de rendre heureux ma femme et mes enfants. Leur apporter l'affection, l'éducation, être à leur écoute, être quelqu'un de responsable, de viril. Je suis actif, père actif. Je dois subvenir aux besoins essentiels et vitaux de ma famille. Je dois apporter les besoins financiers, l'autorité qui m'incombe en tant que père. Je dois être un modèle. Maintenant, je suis mère au foyer. Alors, je suis responsable de ma famille également. La responsabilité est partagée. Je dois donc rendre heureux mon mari et mes enfants. Tout comme le père doit rendre heureux sa femme et ses enfants. Comme le père, elle doit être à l'écoute, produire de l'affection dans son foyer, éduquer, soutenir, réconforter, etc. Et on a vu l'importance des mères pour l'ambition et les projets des enfants. On a vu la mère d'Edison qui était derrière elle, la mère de Shafi'i, hein, ce maître à penser de l'école Shafi'i, fondateur de l'école Shafi'i. Hein. Mm-hmm. C'est sa mère qui est derrière, qui était derrière lui, étant jeune. C'est elle qui l'a poussé. La mère joue un rôle dans l'ambition des enfants. Et ça, on y reviendra quand on se posera la question comment faire naître l'idée de projet et comment planter l'ambition dans le cœur de nos enfants. Alors, on a dit père actif, on a dit mère au foyer. Maintenant, je suis célibataire. Je ne suis pas père ni mère. Quel est donc mon meilleur projet en tant que célibataire? En tant que célibataire, mon meilleur projet, c'est de me préparer au mariage, puisque je vais me marier, pour la majorité des gens. Donc je dois me préparer à la vie conjugale. Je dois m'informer. Qu'est-ce que c'est la vie conjugale? Je ne dois pas me lancer dans la vie conjugale comme ça. Mmh. Non, je dois m'informer. Moi, en tant que femme, qui va être mère de famille, peut-être mère au foyer, je dois aussi savoir cuisiner, c'est important. Hein, pour réconforter mon mari quand il revient, pour mes enfants, etc. Et non pas tomber dans l'excès dans lequel on tombe aujourd'hui dans cette société de consommation, manger tout surgelé, ou bien chacun dans son coin mange. Hein, il n'y a plus cette cohésion familiale autour d'un repas chaud, mmh. hein, qui est l'apanage, on dirait, de nos mères, hein, ou de cette encore tradition hein, qui survit malgré tout. Mmh. Je suis grand frère ou grande sœur. Quel est mon meilleur projet? C'est d'être un grand frère ou une grande sœur, c'est-à-dire être un modèle pour mes petits frères. Aider mon petit frère lorsqu'il fait ses devoirs. Hein, suivre mon petit frère, j'ai une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Mon meilleur projet, c'est donc selon ma responsabilité et mon rôle. Donc ça, c'est la première partie. Selon ma responsabilité et mon rôle, le meilleur projet, c'est de mener à bien ce qui m'incombe. En tant que père, en tant que mère, en tant que grand frère, grande sœur, etc. Selon ma fonction. Alors c'est soit je travaille, soit je suis au chômage ou retraité. Je travaille. Je dois être le meilleur dans mon travail. Un exemple. Je dois être une personne de confiance. Conserver mes principes dans le monde du travail. Alors j'énonce comme ça des principes, j'énonce des grandes idées, ça mérite développement. Quand je dis bien conserver ces principes, qu'est-ce que ça veut dire dans nos sociétés aujourd'hui? Ça prendrait trop de temps. Hein, mais je donne des grandes idées, peut-être qu'à l'avenir, on aura l'occasion de les développer. Mmh. Donc, moi qui ai une fonction, qui suis dans le monde du travail, je dois être le meilleur, accomplir mon travail comme il se doit, et être un exemple, un modèle au niveau comportemental. C'est important. Je suis étudiant. Je dois être le meilleur à l'école. Le meilleur à l'école, avoir les meilleurs résultats. Et c'est comme ça que je vais plaire à Dieu. Comme ça que je vais plaire à Dieu. Je suis au chômage ou retraité. La meilleure des choses à faire, c'est de ne pas perdre mon temps. Car, bien souvent, chômage, retraite est synonyme de oisiveté. Non. La meilleure des choses à faire pour quelqu'un qui est au chômage, c'est d'être actif. Quelqu'un de retraité, c'est d'être actif. Trouver une occupation. Servir la société. Al-Muhim, être engagé. Ne pas perdre son temps. Alors on a parlé de la responsabilité, le meilleur projet en tant que vis-à-vis de la responsabilité, le rôle qu'on a joué, vis-à-vis de ma fonction, est-ce que je travaille, est-ce que je suis au chômage ou retraité, maintenant selon mes compétences. Chacun a des compétences, des aptitudes qui sont propres à lui-même. Mmh. Selon mes compétences, le meilleur de mes projets, c'est d'utiliser ces compétences pour servir autrui et l'islam. Par exemple, j'ai un don pour l'écriture. Oui. Le meilleur des projets, c'est d'utiliser ce don pour servir ma société. Je vais écrire des romans, par exemple. Je vais écrire des histoires pour les enfants. J'utilise mes compétences pour ce qu'il y a de meilleur. Et je dois transmettre ces compétences. Ça fait aussi partie du meilleur projet, c'est de conserver ces compétences, les développer, les utiliser et les transmettre. Mmh. Et vous voyez que le prophète, lorsqu'on venait et on interrogeait au prophète, quel est le meilleur des actes, la meilleure des actions, il n'avait pas une seule réponse. Il ne disait pas le meilleur des projets, c'est ça, point barre. Non, c'était selon les compétences de la personne qui venait le voir. Lorsque c'était un homme robuste, il disait le meilleur des projets pour toi, c'est d'aller au combat, au front. Lorsqu'il voyait une personne riche, il lui disait le meilleur des projets pour toi, c'est de dépenser pour ta société. Donc il n'y a pas un seul projet, selon nos compétences. Regardez, hein, qui était le mu'adhin de Medina? Donc on connaît tous Bilal.
Bilal.
Oui, parce qu'il avait ce nom. Hein. Mais il y avait aussi Abdullah ibn Ummi Maktoum, cet homme aveugle. Surat hein, Abasa wa Tawalla. Elle est descendue, la première partie, vous connaissez, hein, ouais. Il est venu le voir, il était aveugle, il voulait recevoir des exhortations, le prophète l'a repoussé. D'accord ? Et cet homme-là, qui était aveugle, regardez quel poste il occupait. Il appelait les gens à la prière. Et quel beau projet que d'appeler les gens à la prière. Quel beau projet. Et regardez, malgré sa cécité. Donc selon nos compétences, voilà, je suis aveugle, je peux servir ma société. Il n'y a pas, c'est pas impossible. Alors, nous avons dit la responsabilité, la fonction, les compétences, passons maintenant aux circonstances. Le meilleur des projets, c'est aussi de, selon les circonstances. Voilà, vous avez soit les circonstances qui renvoient à, hein, aux occasions de fête, les manifestations de joie. Quel est le meilleur des projets durant le Eid, durant un mariage, durant une invitation, durant un anniversaire? C'est d'entrer la joie dans ceux qui sont autour de moi, puisque c'est un moment de joie. Je suis intelligent. J'ai compris que nous sommes dans une circonstance bien particulière qui exige la joie. Je vais donc, comme meilleur projet, entrer la joie dans le cœur de ceux qui m'entourent. Maintenant, passons à l'inverse, situation inverse. Nous sommes dans une situation de crise, de danger, de catastrophe naturelle, de tension, d'imprévu, de décès, de divorce, de maladie, de malheur. Quelle est la meilleure des positions, la meilleure des projets dans ces situations difficiles? C'est quoi? C'est de limiter le malheur. Vous voyez, limiter le malheur. Alors, on peut entrer dans les détails, mais après, à vous de vous imaginer quand quelqu'un est mort, donc je vais venir consoler la famille, je diminue le malheur, catastrophe naturelle, je vais proposer une aide humanitaire, etc., etc. Ensuite, profiter des occasions, et ça c'est propre à notre religion, puisque Dieu nous dit, par exemple, pendant Ramadan, la meilleure des choses à faire, c'est ça. Pendant Laylatul Qadr, la meilleure des choses à faire, c'est ça. Pendant le dernier tiers de la nuit, la meilleure des choses à faire, c'est ça. Maintenant, ça, c'est à vous d'aller prendre Riyad Salihin, de l'ouvrir, et d'aller voir les bienfaits, d'aller voir les mérites, des moments de la journée. Et vous allez savoir, selon les occasions qui se présentent durant la journée, durant le mois, durant l'année, la meilleure des choses à faire. Ça, c'est à tout à chacun d'aller se plonger dans ce domaine de la science. Alors, on a dit les circonstances. Alors, vous voyez, alors je rajoute quelque chose. Le meilleur des projets dans ces situations qu'on a évoquées, c'est être l'homme de la situation. C'est quoi être l'homme de la situation? C'est se démarquer. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces événements soudains, en tout cas ponctuels, qui sont un malheur ou bien un événement de joie, qui ne dure pas longtemps. Dans ces événements qui portent un caractère passionnel, une tournure agitée, et où il y a une richesse de rebondissement, ces moments de malheur et de joie, la meilleure des positions à avoir, c'est d'être l'homme de la situation, c'est-à-dire d'avoir une position critique, d'avoir un recul. Car durant ces moments, la majorité des gens sont plongés dans l'événement. Toi qui est dans un mariage, toi qui es dans un anniversaire, la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est bien sûr entrer la joie dans le cœur, mais en même temps d'avoir une position de recul, c'est-à-dire d'avoir un esprit critique. Et ça, on doit l'avoir dans les moments de fête, comme c'est le cas aujourd'hui, dans les moments de mariage, vous voyez des débordements, des excès qui sont contradiction totale avec notre religion. Toi, en tant que musulman, le meilleur de tes projets, c'est d'être heureux durant ce moment, mais aussi d'avoir un point de vue critique. Pas d'être emporté par l'excitation, mais de savoir pointer sur pointer le doigt sur des choses qui ne sont pas bien, qui se passent durant les mariages, durant les moments de fête. Même chose durant les moments de malheur, que tu aies une position critique, que tu saches avec raison agir. Passons maintenant au milieu. On a dit la responsabilité, le rôle. Nous avons dit la fonction, nous avons dit les compétences, les circonstances, maintenant le milieu. Et étudie ton milieu, tu sauras quel est le meilleur des projets. Quel est le meilleur projet qui m'incombe, moi, aujourd'hui, au XXe siècle, dans ma société, qui est la mienne? À toi d'analyser ta société, tu sauras quel est le meilleur des projets. Étudie les besoins, les maux de ta société. Alors, par exemple, nous sommes dans une société matérialiste athée. Et donc, elle a besoin de valeurs spirituelles. Le meilleur de mes projets dans cette société athée matérialiste, c'est d'apporter hein, ma goutte spirituelle, car les gens ont un besoin spirituel. Cette société est individualiste, n'est-ce pas? Le meilleur de mes projets, moi qui ai vu hein, ce mot, ce mal plutôt, c'est de développer la fraternité et l'entraide. Mmh. Je viens hein, régler, je viens guérir ce mal. Cette société est une société de consommation. La meilleure des choses à faire, moi qui ai vu cet art, c'est de développer chez les individus un esprit d'économie, puisque c'est une société de consommation. La maîtrise des passions également. Moi qui suis devant un film, moi qui suis devant Internet, moi qui suis devant le portable, comment vais-je maîtriser ces engins nouveaux? Mmh. Je vais leur enseigner à mes élèves, à mes enfants, je vais les protéger de ces... Alors, je le mets entre guillemets, bombe à retardement.
Mmh. Voilà, des
bien
dérives,
souvent.
Toujours des dérives.
Toujours des dérives. Hein, comment utiliser ces nouveaux par rapport à notre vision islamique? Cette société est une société de débauche. On voit ce qui se passe. On voit comment le corps de la femme est traité comme un objet. On voit comment souffrent les femmes aujourd'hui, les filles. On les considère comme des mouchoirs qu'on utilise et qu'on jette. Les filles souffrent. Les garçons en profitent. Car la fille a été mise au centre de la société. Tout tourne autour d'elle maintenant. Société où fait ravage l'irrespect. Respect entre élèves et professeurs. Hein, l'élève qui se révolte contre un professeur qui lui manque de respect. J'ai vu ce mal. Le meilleur des mes projets, c'est de développer la pudeur chez ces personnes. C'est de développer la discipline et le respect. Vous voyez, j'analyse ma société, mon milieu, et je vais trouver le meilleur des projets. J'étudie les individus, leurs habitudes, leur culture, leur sensibilité, leurs attentes, et je réponds à tout ça. J'étudie mon époque. Nous sommes dans une ère scientifique. Moi qui suis musulman, je vais maintenant développer l'aspect scientifique miraculeux du Coran. Voilà, j'ai compris ma société, j'ai compris mon époque. Je sais que les gens sont dans une époque scientifique. Je vais les attirer par ce qui est scientifique. Et c'est vrai. Nous sommes dans une époque de violence. Une époque de violence. Je vais développer le pan de la paix dans l'islam. Notre religion est une religion pacifique. Oui, c'est vrai. Je peux développer beaucoup de thèmes dans l'islam, mm-hmm. mais j'ai compris mon époque, je vais développer la paix. Parce mm-hmm. que nous sommes en besoin de paix. Je vais développer la solution aux crises économiques, à la pauvreté. Oui, puisque nous vivons une crise économique. Je vais maintenant m'intéresser à l'islam dans le domaine économique et apporter des solutions. Effectivement, il y a des solutions. Car en 1991, lorsqu'il y a eu un colloque de savants durant une semaine en Allemagne, savants 210, savants musulmans, 220 savants économistes, hein, bien sûr, non musulmans, hein, des éminents hein, du monde entier. Ils se sont réunis donc en Allemagne en 1991. Après une semaine de discussion, ils ont étudié l'islam, l'aspect économique, les musulmans leur ont expliqué, etc. Le président du congrès, hein, au terme de ce symposium, il a dit qu'en conclusion que nous devons étudier l'économie islamique car elle est la solution de demain à nos crises économiques. En 91, il a dit ça. Qu'est-ce que vous pensez d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez d'aujourd'hui? Et effectivement, il y a un éveil hein, dans toutes les sociétés aujourd'hui. On se penche sur les banques islamiques. Qu'est-ce que les banques islamiques? Et on commence à les développer. Mmh. Car effectivement, il y a une solution à notre crise économique. Il y a un choc. Une crise civilisationnelle. Comment vais-je apporter une solution à tout ça? Eh bien, je vais parler de la grandeur de la civilisation islamique, du rapprochement des civilisations lors du Moyen-Âge, etc., etc., etc. Mmh. Ça, c'est selon ton ambition, selon ta truc. Donc, je répète les 5 points. Comment définir le meilleur des projets? Il n'y a pas une solution miracle. Vous interrogez d'abord selon votre responsabilité, votre rôle, selon votre fonction, selon vos compétences, selon les circonstances, selon le milieu, et vous trouverez quel est le meilleur projet. Voilà.
Voilà, fait que beaucoup à réfléchir, ouais. Beaucoup d'informations, on essaie d'être structuré, bien entendu. On appelle l'ensemble des auditeurs et auditrices à éventuellement réfléchir. Il y a, bon, la plupart de nos les émissions, effectivement, il y a toujours c'est riche en enseignements. Après, il y a aussi la capacité aussi à avoir déjà retenu un certain nombre de formations, d'avoir été attentif. Dans la compréhension, ça nécessiterait beaucoup de développement. Oui. Pourquoi pas aborder ces thématiques une à une. Toujours est-il que le grand projet, voilà, plaire à Dieu,
bien sûr.
Y a tous les chemins peuvent mener
tous
à...
Les chemins mènent
à ce grand projet.
À ce grand projet.
À condition d'interroger...
Vous ne changez pas votre projet. Vous avez un travail. Vous avez une famille. Ne changez pas votre projet. Hein? Ne changez pas de travail. Soyez les meilleurs dans votre travail. Mm-hmm. C'est-à-dire un changement intérieur. Et l'ambition, c'est d'abord une prise de décision. Et une prise de conscience que c'est le paradis que nous recherchons. Mm-hmm. Nous ne courons pas après un ballon pour marquer des buts. Hein? Comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui dans nos sociétés. Non, nous courons après le paradis avant tout. C'est après ça que nous courons. Mmh. Donc l'ambition, c'est une prise de conscience et des efforts. Comme l'a dit Edison, 2% d'intelligence, 98% d'efforts. Et ça revient à chacun. Là, on a parlé pendant 2 heures. Je veux dire, on ne peut rien faire d'autre. Après, c'est à l'auditeur de prendre la décision, hein, de créer cette ambition.
Et être le plus utile à la communauté.
Exactement.
Ça, c'est un peu trop mal à voir ça.
Non, mais ça m'arrête. Il faut patienter, car c'est pas facile. Hein. Il faut patienter. Il y a des embûches. Je voulais développer les éventuelles embûches qu'on peut rencontrer pour un projet ambitieux. On n'a pas eu le temps. Je voulais aussi développer comment rendre nos enfants ambitieux, comment les éduquer dans ce sens-là. Mmh. C'est des choses importantes, hein, dont on a besoin. Il y a des livres aujourd'hui qui sont écrits. Hein. Mais il y a avant tout une volonté à rechercher au fond de nous-mêmes. Mmh. Voilà.
Peut-être une première volonté pour qui va enclencher toutes ces.
Bien sûr.
C'est déjà de se lancer dans la quête du savoir, de justement pour en savoir plus par rapport à ces thématiques, et ça va engendrer tout le reste. Donc.
N'oublions pas que nous avons Dieu à nos côtés. Hein, on fait un pas vers Dieu, Dieu en fait 10 vers nous. Donc n'ayez pas peur, ayez un projet ambitieux, faites des efforts, Dieu vous aidera.
Bah, là, on terminera là-dessus. Il est déjà 22h, hein, ça passe très 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 vite. Les membres de l'émission qui va suivre l'émission Safina, donc j'ai proposé par JMF section Tourcoing, sur la culture du chant religieux, on va leur donner le relais, hein, puisque on a repris nos habitudes de l'année, c'est-à-dire que 20h-22h l'émission La Prophétie, 22h-23h l'émission Safina sur la culture du chant religieux. Une dernière chose,
le sujet était, machallah, très intéressant, donc on remercie Atman qui va partir, inchallah, pour le savoir, en Égypte, à El Azhar. Nous reviendrons en tout cas cette année sur cette thématique avec d'autres intervenants, comme on le disait au préalable, hein. Hassan, Hussein, Ahmed Miktar, Tayeb Chouiref et Hamza Gharbi qui interviendront, plus d'autres interventions. Mais on reviendra effectivement sur la thématique, en tout cas sur l'éducation, le savoir. C'est quelque chose qui nous est cher, donc il n'y a pas de problème, on y sera attentif. Quoi qu'il en soit, Atman, quand tu reviens, t'es le bienvenu dans notre émission. Barakallahu fik.
Bien, on terminera là-dessus, 22h passées de 1 minute, on passe le relais, donc on vous donne rendez-vous, inchallah, la semaine prochaine à partir de 20h, l'émission La Prophétie, 20h-22h tous les vendredis. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.